1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, vous le savez, 2 heures de médias et de culture au sens très large. Tous les médias, toutes les formes de culture. Par exemple, aujourd'hui, une exposition interactive et Taylor Swift qui se livre dans un documentaire sur Netflix. Nous sommes ensemble pour 2 heures, en direct évidemment. Vous pourrez évidemment podcaster toute ou partie de l'émission ou la moitié qui vous manque ou le quart sur europe1.fr. Notre info média, je ne vous apprends rien. Les élections municipales, c'est dans un mois ou peu s'en faut. Et la presse régionale fourbit déjà ces armes, quelles sont les stratégies, quelles enquêtes, quelles nouveautés, quels débats. Nous serons avec plusieurs patrons de journaux régionaux, dont un petit dernier, une sorte de canard enchaîné lyonnais, je ne vous dis que ça. Nos invités ensuite, Bruno Guillon, il présente les Victoires de la musique, ce sera ce week-end, ils seront 10 sur la scène, mais surtout les Amours, l'émission qui propose 3 jours de spécial Saint-Valentin, et oui c'est vendredi, avec notamment une spéciale senior et une spéciale ado. Il les mélange pas, hein. En tout cas fallait oser. Enfin, une star mondiale connue, la canadienne Marie-Josée Croze, prix d'interprétation à Cannes pour Les Invasions barbares. Elle a également tourné dans le fameux Munich de Spielberg, rien que ça. Et pour la première fois de sa carrière, elle a accepté de jouer dans une série internationale, il fallait ça, Mirage, qui débute lundi sur France 2. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Justine Nolman.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Le journal des médias qui démarre traditionnellement cette émission, c'est avec vous Benjamin Delsol, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au menu ce matin Benjamin.
Xavier Niel rachète Nice Matin, France Télé lance Outre-mer la première et un envoyé spécial à ne pas manquer.
Mais on commence d'abord par les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télévision?
Et c'est 1, 2, 3 une nouvelle fois, TF1 arrive en tête avec le lancement de sa nouvelle série fantastique Émergence qui a été suivie par 4 396 000 téléspectateurs pour 18,7% du public. À la deuxième place, c'est le premier épisode d'Il a déjà tes yeux avec et réalisé par Lucien Jean-Baptiste. La série adaptée du film du même nom a réuni hier soir 3 463 000 téléspectateurs pour 14,7% de part d'audience. Et la troisième place, c'est France 3 qui se classe donc dernier de ce petit...
Troisième. Ouais, dites exactement. Pas dernier, il ouais, y a 200 chaînes. Ouais. Dites pas dernier.
Troisième de notre trio avec le quart de finale de la Coupe de France. C'était Lyon-Marseille. 2 666 000 téléspectateurs pour 12,4% de part d'audience. Un petit score comme le match.
Voilà, mais enfin dans cette liste, y a pas, ils sont quand même devant M6, oui, La devant, 5, ouais, Arte et tous les autres. Et TMC, W9 et j'en oublie exprès. Le journal des médias maintenant, Xavier Niel et Nice Matin, ça y est, ou plutôt, c'est presque fait.
Presque, oui. C'est un long feuilleton qui se passe dans le sud-est de la France. Non, ce n'est pas le feuilleton auquel vous pensez. C'est un feuilleton commencé à l'été dernier dont on devrait enfin connaître la fin dans quelques heures. Dans les épisodes précédents, il y a eu l'abandon de l'investisseur libanais Iskandar Safa qui était intéressé par le projet. Il y a eu l'approbation de l'autorité de la concurrence. Reste maintenant à acter définitivement la transaction. Et c'est aujourd'hui que cela va se jouer. Une assemblée générale avec les salariés actionnaires du groupe, réunis sous forme de coopérative, doit acter ce matin le rachat du quotidien régional Nice Matin par Xavier Niel, le patron de Free et co-actionnaire du Monde avec sa holding personnelle. Tout ça sera suivi d'un conseil d'administration demain, vendredi, au cours duquel l'actuel président du groupe devrait passer la main.
Et donc si tout cela est acté, Xavier Niel va devenir enfin le nouveau patron de Nice Matin.
Oui, Xavier Niel détiendra désormais, et c'est une première pour lui, 100% des parts d'un groupe de presse régional qui édite donc Nice Matin, mais aussi Var Matin et Monaco Matin. Et selon les informations de l'AFP, Niel aurait prévu d'investir 50 millions pour racheter le titre déficitaire et assurer son développement. Un plan de départ volontaire est prévu, 80 personnes seraient concernées hors journalistes. Et du côté de la rédaction, 35 devraient faire jouer la clause automatique de cession qui permet donc de partir quand le propriétaire change, ce qui va donc se passer. Mmh. Les départs de la rédaction seraient en partie compensés par des embauches, précise-t-on du côté de Nice Matin.
Et on attend toujours l'arrivée de Pierre-Antoine Capeton à Paris-Normandie. On poursuit avec France Télévisions qui prépare l'après France O.
Oui, le compte à rebours est enclenché. France O, tout comme France 4 diffusé sur la TNT, cessera d'émettre le 9 août prochain. Pour compenser l'arrêt de la chaîne ultramarine du service public, France Télévisions prend les devants et s'apprête à lancer un portail des Outre-mer, son nom Outre-mer la première. Ce portail en ligne sera lancé le 31 mars. Ce sera une offre numérique des trois océans et de proximité, interactive et multiformat, comme l'a annoncé Delphine Ernotte lors de sa visite à la Réunion où elle est actuellement. On sait déjà ce qu'on va pouvoir y voir.
Ouais.
Ce portail devrait rassembler des programmes issus des chaînes du réseau radio et télé La Première, la branche ultramarine donc de France Télévisions, qui se décline en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion ou encore à la Martinique.
Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une ce mardi, la dingue qui a fait une victime chez nous en Martinique. Elle était hospitalisée au CHU de Fort-de-France. Plus de 2100 cas évocateurs ont été diagnostiqués depuis le mois de juillet 2019. Nous sommes toujours en phase de risque épidémique.
Et la présidente de France Télévisions explique que ce portail est l'un des engagements forts pris dans le cadre du pacte pour la visibilité des Outre-mer. France Télévisions qui annonce aussi un renforcement de l'offre linéaire de programmes ultramarins sur l'ensemble de ses chaînes.
Un reportage pour terminer. Envoyé spécial a suivi deux jeunes filles qui ont fui l'Arabie Saoudite.
Oui, deux sœurs devenues des fugitives à qui le magazine d'Élise Lucet consacre ce soir un reportage très fort. Elles s'appellent Dalal et Dua. Elles ont 21 et 22 ans et elles risquent leur vie pour être libres. Face à un père qui voulait les marier de force, elles ont fui leur pays où règne la wilaya, un système d'oppression patriarcale. Les hommes, que ce soit le père, le mari, le frère, même les oncles, ont les pleins pouvoirs sur les femmes. Alors pour les deux filles, c'était partir ou mourir.
We are at risk. Nous sommes en danger. J'en appelle à toutes les organisations des droits de l'homme et à toutes les ONG. Aidez-nous à rejoindre un pays sûr.
Et c'est en découvrant en juin dernier sur Twitter ce message vidéo que vous venez d'entendre, posté par les deux sœurs en forme d'appel à l'aide, qu'Envoyé spécial a décidé de suivre leur fuite. La journaliste Alice Gauvin, qui signe ce reportage, a suivi pendant plusieurs semaines, entre juin et octobre dernier, les deux étudiantes dans leur cavale, d'hôtel en hôtel à Istanbul, en Turquie. Là-bas, les deux filles ne portent plus l'abaya, le voile, et parlent à visage découvert, face caméra.
On ne pouvait pas vivre notre vie, prendre des décisions, même sur les détails les plus petits. Sortir seule dans la rue, ne pas porter l'abaya.
Même notre mère nous frappait si on voulait enlever notre abaya.
En Arabie Saoudite, tout nous était imposé. S'enfuir, c'est la première décision qu'on a prise dans notre vie.
J'imagine que ça n'a pas dû être simple de les convaincre d'être suivis par une caméra.
Contre toute attente, ça n'a pas été si compliqué que ça. D'autres l'ont fait avant elles pour dénoncer les conditions de vie en Arabie Saoudite. Et être médiatisé, c'est aussi un moyen pour elles de prendre le monde à témoin, comme nous l'explique Alice Gauvin au micro de notre journaliste Louise Bernard.
Alors ça n'a pas été dur au départ de les convaincre, très honnêtement. Je les ai contactées sur Twitter. Elles m'ont juste demandé de passer par un activiste saoudien qui les aidait à distance, qui s'est assuré que j'étais bien journaliste, donc pour par protection. Moi, quand je les ai rencontrées, ça faisait 3 semaines qu'elles s'étaient enfuies. Donc elles étaient dans une urgence à trouver de l'aide. Elles se sont dit, il faut qu'on médiatise notre fuite, c'est notre façon de nous protéger. Si le monde entier sait qu'on a pris la fuite, qu'on est à Istanbul, qu'on est traqué par les autorités de notre pays, par notre famille, ils hésiteront un peu plus avant de s'en prendre à nous.
Et la journaliste d'Envoyé spécial salue la détermination des deux sœurs qui n'étaient préparées à rien, mais encore moins à quitter le pays.
Elles n'ont pas du tout été élevées pour être autonomes ou indépendantes, bien au contraire. Et elles ont fait ce geste complètement fou de s'enfuir sans avoir préparé plus que ça à leur fuite, se retrouver dans une ville inconnue. Il leur a fallu un courage considérable. Nous, avec notre regard occidental, on se dit elles sont parties vivre leur vie. C'est comme les fugueuses chez nous, mais non, ça n'a rien à voir en fait. Elles ont grandi enfermées, soumises à l'autorité d'un homme. Rien ne les a éduquées à faire, ne serait-ce que oui, aller faire des courses toutes seules. Alors évidemment, s'enfuir dans une ville inconnue, c'était quelque chose de complètement dingue pour elles.
Voilà donc l'histoire de Dalal et Dua. Entre menaces, formalités administratives et peur permanente d'être retrouvées, arrêtées et reconduites en Arabie Saoudite, ce sont deux filles traquées mais libres que l'on découvre dans leur voyage immobile entre Orient et Occident. Les fugitives, le reportage d'Alice Gauvin est à ne pas manquer. C'est ce soir donc d'Envoyé spécial sur France 2.
Merci beaucoup Benjamin Delsol. À demain.
À demain.
Le 15 mars prochain, ce sera le premier tour des élections municipales. Alors quel est le rôle et les enjeux pour la presse régionale? Eh bien, pour répondre à ces questions, vous recevez dans un instant Philippe, le créateur de Lyon Gag, le rédacteur en chef de La Voix du Nord et un journaliste de Ouest France. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour.
Les élections municipales, c'est leur coupe du monde à eux. Eux, ce sont les journaux régionaux. L'expression n'est pas de moi, mais de Sandrine Thomas, la directrice des rédactions du groupe Centre France. Nous sommes à presque un mois des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Et la presse quotidienne régionale est déjà dans les starting blocks pour couvrir ce scrutin local. Chacun y va de son dispositif pour attirer le lecteur et les lecteurs informés, pour susciter, voire pour organiser des débats en espérant aussi de bonnes ventes. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Stéphane Vernet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Ouest France, c'est comme ça qu'on dit là-bas, directeur de la rédaction de Paris, Patrick Yankelevitch avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place à Lille, rédacteur en chef de La Voix du Nord, et Philippe Brunet-Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez Lyon Gag, une parodie de Lyon Mag, un petit canard rigolard, comme vous l'appelez, pour couvrir une élection bien compliquée. Merci à tous les trois d'être avec nous en direct. Stéphane Vernet, je commence par vous à Ouest France. Est-ce que vous vous préparez à une Coupe du Monde, pour reprendre le terme ?
Ah, c'est une très bonne expression, c'est exactement ça. Ça revient tous les 6 ans, et en fait, c'est une période où on est à bloc pendant dans l'avant, dans le pendant, dans l'après, parce qu'il y a aussi des choses à raconter après.
Ouais.
Et donc pour nous, c'est beaucoup de passion. De passion du métier, de passion aussi de nos lecteurs, qui sont aussi des électeurs, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est des rencontres, de l'écoute, du partage, beaucoup, des débats, parce qu'on en organise, partout dans nos rédactions, enfin dans nos villes, les villes où on est présent. Donc, c'est très intense.
On a compris que vous attendiez ça comme le magazine Vélo attend le Tour de France, mais est-ce que ça se ressent également sur les ventes ? Est-ce que les ventes montent quand on est en période préélectorale municipale ?
Alors, l'effet sur les ventes, il n'est pas forcément. En fait, c'est très variable, si vous voulez, parce qu'il y a. C'est comme les résultats sportifs, c'est comme le foot par exemple.
Allez-y.
On parle de
bah
sport.
Moi, c'est simple, quand j'étais petit, j'achetais le journal quand on avait gagné.
Exactement.
Je ne l'achetais pas quand on avait paumé.
En fait, si vous voulez, par exemple, les résultats sportifs sur le foot, vous avez des ventes, un impact très fort sur les ventes quand il y a un enjeu très fort. C'est-à-dire, vous avez un club qui est menacé de descendre, ou qui joue son maintien, qui est en train de jouer une coupe, etc. Là, ça a un effet sur les matchs en jeu, il y a toujours un effet. Pour les municipales, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a près de 35 000 communes, vous avez plein d'endroits où c'est...
Oui, l'élection gagnée d'avance fait moins vendre du papier.
Il n'y aura pas d'impact. Par contre, il y a des endroits où c'est âpre, il y a du débat, etc. Il y a de la castagne, et là, il y a des enjeux forts, et là ça fonctionne. Oui,
c'est quoi le dispositif de Ouest France ? C'est plus du numérique ou vous êtes davantage sur le terrain ?
Les deux, mon capitaine, on est partout, en fait. C'est du print, c'est du numérique. On est très présent sur tous les supports. Le print, en fait, c'est des sujets locaux, c'est des enquêtes au long cours, des choses très thématiques sur les thèmes de vie quotidienne ou les choses très locales qui intéressent les lecteurs. Mais on a aussi des débats. Donc on est présent physiquement on incarne cette campagne de manière très forte. Et sur le numérique, on utilise tous les produits, tous les services, beaucoup d'innovation. On fait des séries de podcasts qui marchent très bien, ville par ville, donc avec des taux d'écoute très importants. On a une newsletter, par exemple. On aura tous les résultats, parce que ça c'est un gros enjeu pour nous, comme les résultats sportifs en direct le soir du premier tour et du deuxième tour. Mais on présente aussi tous les dans nos villes et villages, on présente tous les candidats et leurs colistiers.
Vous parliez de podcasts, les enjeux des différentes villes sont décortiqués dans des podcasts qui vont de 30 à 40 minutes. On va écouter un extrait, celui consacré à Dinard.
Ce qui flambe souvent donc à Dinard, je le disais, c'est la vie politique locale. Donc une ville qui a connu des sacrées personnalités, vous l'avez dit Yves-Marie, hein, avec notamment l'ancien ministre Yvon Bourges, qui a longtemps dirigé la ville, hein, avant de passer la main à un certain Marius Mallet, qui a été maire de 89 à 2010, avant de démissionner en cours de mandat et de passer la main à son épouse, depuis il est décédé. Donc Sylvie Mallet, qui a dirigé la ville, elle, de 2010 à 2014. Et en 2014, Martine Crevaillat-Schutz, qui a créé la surprise en mettant un terme au règne des Mallet. Elle n'a pas connu un mandat de tout repos. Hein.
Ah, ça, c'est effectivement le cas de le dire, parce que pendant les 3 ans, hein, de 2014 à 2017, ça flinguait à toutes les rues.
C'est pointu sur Dinard, il faut vraiment être spécialiste, mais quand même, il y a un truc absolument dingue, c'est pour ça qu'on voulait entendre cet extrait. Stéphane Vernet, ce podcast sur Dinard a cumulé 4600 écoutes pour une ville de 10 000 habitants. Si on retire les enfants... ça veut dire quasiment tout le monde ou une personne sur deux a écouté ce podcast, c'est au-delà de vos espérances.
Mais oui, mais c'est parce que typiquement à Dinard, il y a match. C'est une ville très compliquée, qui a un passé municipal extrêmement complexe, avec une maire qui est partie en cours de mandat, et les gens sont passionnés. En fait, la politique, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la politique, en tout cas au niveau local, quand elle est incarnée, quand elle touche la vie quotidienne, elle passionne les gens.
Patrick Jankilevitch, à La Voix du Nord, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Vernet ? La politique, c'est passionnant. J'allais vous demander, quel était vous-même à La Voix du Nord, votre dispositif ?
Alors, bon, il est un peu comparable à celui de Ouest France, sauf que nous, on fait pas de podcast, on n'est pas encore très avancé là-dessus. Mais en revanche, nous, on commence très très tôt les élections municipales. Alors, c'est pas compliqué hein, sur la politique locale. C'est soit vous décidez de vous laisser instrumentaliser, soit vous prenez les choses en main. Nous, on essaye de prendre les choses en main, effectivement. Donc, dès le mois de juillet, on a commencé une opération qui s'appelle le bilan des maires. Ouais. On a 1538 communes dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, de la plus petite, c'est Guincourt, 19 habitants, jusque la plus grande, Lille, 230 000. Nos journalistes et nos correspondants ont repris les promesses électorales qui avaient été faites lors des précédentes élections. On les a passées au crible et on regarde ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Et alors, ça permet déjà de prendre la main.
Et alors, est-ce que beaucoup ont tenu parole? Parce que moi, je me souviens que Jacques Chirac nous avait promis qu'on pourrait se baigner dans la Seine d'ici 5 ans. J'attends toujours, j'ai mon maillot qui est prêt. Est-ce que les maires des petites villes tiennent davantage parole que les maires des grandes villes qui sont plutôt en train de faire de la démagogie?
Alors, les petites communes, ce qui est compliqué, c'est qu'elles sont souvent dans des intercommunalités qui prennent les grosses décisions. Hein, donc, c'est pas toujours simple pour les petits maires. On sait bien, ils sont de plus en plus, les petits maires sont de plus en plus dépossédés, finalement, de leurs compétences. Mais généralement, oui, on peut dire que les gens tiennent à peu près leurs promesses. Quoi. Alors, ça dépend, on va dire. Hein. Certaines communes, même, réalisent des choses qui n'étaient pas prévues, qui n'avaient pas été annoncées. Puis voilà, certaines choses sont plus compliquées à mettre en place. Mais globalement, c'est plutôt pas mal, mais pour nous c'est vraiment un gros dispositif, hein, parce que 1538 communes, faut les faire.
À Paris aussi, je signale qu'il y avait plein de sens interdits qui n'avaient pas été annoncés au moment des élections, on les a découverts après. Philippe Brunet-Lecomte, même chose, vous êtes parodique, donc j'imagine que ce que le maire a promis n'a pas tenu, c'est votre cam, comme on dit.
Oui, surtout que c'est vraiment un sacré bordel, excusez-moi, à Lyon, au sens où il y a 4 candidats en marche.
Oui, c'est vrai.
Il y a le leader du Rassemblement National vient de la France Insoumise, c'est-à-dire qu'il a démissionné de la France Insoumise il y a 6 mois. Le candidat de la droite dite républicaine n'a jamais mis les pieds à Lyon. Il a fait 30 ans dans un mandat dans une petite ville du sud de la région Rhône-Alpes.
Ouais.
Donc il y a tout. Il y a tout et donc c'est assez drôle. C'est très violent parce qu'il y en a qui se sont trahis. Les deux plus proches de Gérard Collomb, le maire, se présente contre lui. Enfin, c'est vraiment pour ça que moi, quand une petite bande de journalistes est venue me voir en me disant « aide-nous à faire ce canard », je me suis dit « mais vraiment, il y a de quoi faire ». Et donc, nous, pas du tout sérieux, on essaye de tourner tout ça en dérision, de raconter les coulisses et de s'amuser, même si notre objectif, c'est pas de dire « tous pourris, n'allez pas voter ». Au contraire, il faut que tout le monde vote, mais il faut que tout le monde sache.
D'accord. Et cette élection à Lyon fait également la joie de Nicolas Canteloup. Ça me fait plaisir de rester avec nous. On va parler de la suite des élections sur le terrain. Comment ça se passe pour la presse?
L'info média du jour continue dans quelques minutes avec Philippe Brunet-Lecomte, le créateur de Lyon Gag, Patrick Yankilevitch, rédacteur en chef de La Voix du Nord, et Stéphane Vernet, journaliste à Ouest France et directeur de la rédaction de Paris, pour parler presse régionale et élections municipales sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Ce matin, vous recevez Philippe Vandel, Stéphane Vernet, journaliste à Ouest France et directeur de la rédaction de Paris, Philippe Brunet-Lecomte, le créateur de Lyon Gag, et Patrick Yankilevitch, le rédacteur en chef de La Voix du Nord, pour parler élections municipales.
Patrick Yankilevitch, on parlait des dispositifs que mettent en place les différents journaux à l'occasion des municipales. La Voix du Nord, elle, a préféré miser sur la vidéo en partenariat avec la chaîne régionale WEO. Vous produisez notamment les municipales de Raphaël, de courtes vidéos pédagogiques sur les enjeux des élections dans chaque commune. On écoute.
Saison 1, Jacques Mélic. Ce nom vous dit quelque chose? Normal. Il a été le maire emblématique de la ville, député, ministre. Il est aussi connu pour la fameuse affaire OMVA pour laquelle il a été frappé d'inéligibilité. Il a été réélu en 2002. Saison 2, un homme ose défier Jacques Mélic. Pour le battre, cet homme également de gauche, qui s'appelle Stéphane Saint-André, va faire alliance avec un autre candidat, Olivier Gacquer, qui va devenir son premier adjoint. Depuis, pour Jacques Mélic, c'est clair, Stéphane Saint-André est l'homme à abattre.
Patrick Yankilevitch, à Béthune, c'est comme à Dinard, c'est toujours des sagas les élections municipales. En tout cas, c'est ce qui vous intéresse.
Non, tout nous intéresse en fait. Les 1538 communes nous intéressent. Mais c'est vrai qu'on a mis le paquet, comme vous le disiez, sur les vidéos cette année, pour ces élections-là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas en des précédentes. L'idée, c'est-à-dire que, comme Ouest France, c'est qu'on essaye d'approfondir un petit peu les municipales, de donner toutes les clés de lecture à nos internautes. Mais on essaye aussi de leur permettre de comprendre les enjeux en un temps assez bref. On sait que la vidéo, c'est quelque chose qui est très consommé sur Internet.
Ouais.
Donc, on a ces vidéos de Raphaël. Vous regardez la vidéo de Raphaël sur Béthune. Vous connaissez la situation de Béthune en 6 ou 7 minutes. Et si vous avez envie d'approfondir, évidemment, vous allez sur nos sites, vous lisez le journal et vous pouvez approfondir la question. On a aussi, avec WEO, donc, des interviews en plateau, soit de personnalités politiques régionales, soit des personnalités locales. Voilà, ça fait un très très gros dispositif vidéo, en effet.
Et parfois, vous interviewez vos propres journalistes localiers qui connaissent la situation mieux que personne.
Mais oui, parce que notre expertise, nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est la proximité. Les gens vivent sur le terrain, ils travaillent sur le terrain, ils connaissent parfaitement la situation, parfois depuis des années et des années. Et par humilité, souvent, on ne faisait pas tellement état de cette expertise. Et en fait, quand vous écoutez l'expertise, notamment dans ces petites vidéos, vous vous rendez compte que nos journalistes connaissent parfaitement bien la situation et que ça permet de l'analyser, en fait. Hein. C'est notre expertise, elle est là. Nous, nos maîtres mots, c'est pédagogie, expertise, analyse, équilibre, évidemment. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on essaye d'être proactif, de ne pas se laisser instrumentaliser. On ne veut pas courir de conférence de presse en conférence de presse. On veut mener un petit peu les débats.
Stéphane Vernet, Patrick Yankelevitch parle d'équilibre. C'est compliqué de ne pas être accusé par un camp, de favoriser l'autre camp et vice-versa.
Ah, il y a ce type d'accusation est récurrent.
Vous êtes libre de faire ce que vous voulez ou comme nous, c'est charté par le CSA qui vous surveille et qui mesure au millimètre ce que vous écrivez dans la presse. Comment ça se passe ?
C'est pas charté par le CSA, mais c'est notre éthique qui nous l'impose. D'accord. C'est-à-dire que non, évidemment, il y a une nécessité, une volonté d'équilibre absolu, de choses très. Enfin, on n'est pas là pour prendre parti. On est là pour donner les clés de chaque scrutin à nos lecteurs. Donc l'équilibre, c'est la règle, mais c'est nous qui nous l'imposons, comme on l'a toujours fait en fait. Alors, c'est fondamental. Ça,
alors, s'il y a un journal qui prend parti, c'est Lyon Gag, parodie de Lyon Mag. Philippe Brunet-Lecomte à Lyon, c'est aussi une saga. C'est quoi la genèse du projet et pourquoi avoir voulu traiter les élections municipales sous la couleur humoristique ?
Alors, je voulais dire, juste pour enchaîner sur mon collègue, mon confrère, nous aussi, on est très équilibrés. On n'est pas surveillé par le CSA.
Vous tapez sur tout le monde. Voilà. Comme ça, c'est clair.
On tape, on se moque, on rigole. Ouais. Et en fait... c'est ça la genèse de ce petit canard. C'est une équipe de jeunes journalistes.
Ouais.
Certains stagiaires, d'autres étudiants, d'autres travaillant dans des médias qui avaient envie de se lâcher.
Ouais.
Certes, nos confrères sont très sérieux, très équilibrés, mais nous, on a envie de raconter les coulisses. Et la meilleure façon de le raconter, c'est l'humour.
Ouais. Je crois que ça a commencé à cause ou grâce à une rencontre avec Fabrice Luchini.
Tout à fait.
Racontez.
J'étais avec une jeune journaliste, Agathe Archambault, 22 ans, et on est allé à la présentation de son film Alice et le maire.
Ouais.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est
un
maire qui est dépressif et qui se demande s'il va continuer
ou pas. Et ça se passe à Lyon.
Et ça se passe à Lyon. Et d'ailleurs, la mairie de Lyon a interdit le tournage dans l'hôtel de ville parce que Colomb se sentait un peu visé. Donc nous, ça a été le déclic.
Ouais.
Et moi, à cette réunion avec Luchini, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous ne vous présentez pas à la mairie de Lyon ? Et là, ça a fait tilt. Agathe aussi était à côté, ça l'a fait marrer. Et puis, de fil en aiguille, plusieurs journalistes sont venus me voir. Et puis, on s'est dit, on y va. On y va. Alors, des interviews imaginaires, des sondages imaginaires. On a fait un sondage pour savoir si Luchini, s'il se présentait, serait élu.
Et alors, il serait élu.
Bien sûr. Même son chien arriverait à faire mieux que Colomb.
Ouais.
Et on fait commenter ce sondage par un prof à Sciences Po, qu'on a déguisé pour ne pas attaquer Sciences Po, on les a appelés Sciences Putes.
Vous n'aviez pas plus délicat ?
Il commente le sondage de Luchini qui arrive 90% en tête, on dit c'est Colomb ce qui va être élu. Nous, on s'amuse beaucoup parce que depuis quelques semaines, on voit que des sondages qui se contredisent, ouais. Qui disent tout et l'inverse. Donc on s'est beaucoup amusé sur les sondages, on s'est aussi amusé sur des interviews imaginaires.
Voilà, j'imagine. Alors c'est en vente 1 euro, Lyon Gag, il y aura un autre numéro ou pas ?
Oui,
si
il y
ça
aura forcément un autre numéro. On a un site internet aussi, lyongag.fr, où on alimente un peu la chronique. Et puis on espère bien qu'il va y avoir une surprise aux élections municipales à Lyon, parce que là, on fera un beau numéro aussi.
Ouais. En 30 secondes, très rapidement, Patrick Yankelevitch, à La Voix du Nord, il y a une note interne qui date de 2014 et qui interdit de publier des articles qui n'intéresseront que les personnes prises en photo. Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire en fait qu'on a mis fin à ce qu'on appelait dans le temps la locale miroir,
ouais.
les remises de médailles, les galettes des rois, les dîners des anciens, les assemblées générales, les associations. En fait, l'idée, c'est pas d'interdire. L'idée, c'est de faire des reportages qui vont intéresser nos lecteurs parce que ça les concerne. En fait, c'est aussi bête que ça. Hein.
Exactement.
On avait c'est dans les années, enfin il y a 30-40 ans, la presse régionale traitait beaucoup de façon rituelle un contenu un peu rituel en fait.
D'accord.
Et on a mis fin à ces rituels.
Stéphane Vernet sera la dernière question à Ouest France. Est-ce que vous avez déjà été embêté, menacé par des candidats ? Je pose la question puisqu'il y a un candidat de La République En Marche à Marseille qui a menacé un journaliste des Échos en lui disant « Merci de cet article, tu me donnes une telle énergie que je vais te mettre la tête dans le cul ». Est-ce que vous avez parfois à subir ce genre d'outrage ?
Non, il y a des tensions, ça, parfois avec certains candidats ou avec certains élus. Ça arrive qu'il y ait des tensions, des frictions. Je ne vais pas vous les détailler, je ne vais pas donner de nom. Mais
non.
Oui, on a pu avoir ce type de problème.
Et de vocabulaire ?
Oui, les outrances. En fait, encore une fois, il y a beaucoup de passion et il y a aussi des outrances, il y a des dérapages, ça arrive.
Merci beaucoup Patrick Yankelevitch, rédacteur chef de La Voix du Nord. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Stéphane Vernet, merci également, journaliste à Ouest France, directeur de la rédaction de Paris, et Philippe Brunet-Lecomte, vous êtes directeur de la rédaction de Lyon Gag et vous avez fait le voyage depuis Lyon pour être ici en direct avec nous. Peur. On vous en remercie. Merci beaucoup.
Restez avec nous, Culture Média continue avec votre prochain invité, Philippe Bruno-Guillon. Plusieurs actualités pour l'animateur. Il nous expliquera tout dans quelques minutes sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et Philippe, il est temps d'accueillir tout de suite Bruno Guillon.
Bonjour Bruno Guillon.
Bonjour Philippe.
Vous avez une triple actualité, les amours que vous présentez avec une spéciale Saint-Valentin, les victoires de la musique, ça c'est sur France 2, et même un passage remarqué à poil sur TF1, sans parler de votre matinée à la radio sur Fun. Je précise que nous avons enregistré cet entretien mercredi après-midi, car le matin, évidemment, vous travaillez. Je l'ai dit, votre actualité télé principale, c'est la présentation des amours, c'est tous les jours à 11h30 sur France 2, vous avez pris la relève de Tex il y a 2 ans. Vendredi, c'est la Saint-Valentin et pour les 3 derniers jours de la semaine, jeudi, vendredi, samedi, vous avez fait 3 spéciales. Et j'ai eu la chance de voir une spéciale Saint-Valentin vraiment spéciale, avec une moyenne d'âge que je n'imaginais pas possible à la télévision.
Bienvenue sur le plateau des amours. J'adore déjà l'émission d'aujourd'hui. Alors hier, on a eu la spéciale Saint-Valentin où nous avions des couples mariés en costume traditionnel. Avant-hier, c'était la spéciale pré-Saint-Valentin avec des seniors. Et là, aujourd'hui, moyenne d'âge entre 14 et 17 ans.
Ils ont entre 14 et 17 ans. C'est la spéciale ado des amours. Le titre officiel, leur vie amoureuse ne fait que commencer. 14-17 ans, vous avez demandé l'autorisation à la chaîne ?
On a demandé l'autorisation aux parents, surtout déjà dans un premier temps, et à la chaîne. Moi, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. On a tendance parfois à vieillir un peu trop vite, et je veux pas dire que j'ai le syndrome de Peter Pan, mais je me souviens, moi, des premières histoires d'amour à 14-15 ans, de ce petit flirt qu'on a au camping, et puis quand on part avec ses parents, on se dit que notre cœur est brisé, que c'était l'amour de notre vie. Ce sentiment fort, voilà, qu'on peut avoir à 14-15-16 ans, et je voulais faire un truc autour de ça, ouais.
À peine les présentations faites, Bruno Guillon, vous posez la question qui tue et qui nous intéresse, car ici, nous sommes une émission média.
Dites-moi la vérité. Est-ce qu'avant de venir sur ce plateau, vous avez vu ne serait-ce qu'une seule fois l'émission ? Emma ?
Ouais. Non.
Kylian ?
Plein de fois.
D'accord, à plein de fois. Amélie ?
Quelques fois.
Quelques fois. Caïs ?
Vite fait.
Vite fait. Laura ?
Une ou deux.
Roméo ?
Non.
Très bien.
Ça fait peur au patron de chaîne alors que ça vous fait rigoler.
Mais oui, ça me fait rire parce que voilà, je suis ancré dans ma génération. Vous le disiez tout à l'heure, je fais de la radio tous les matins avec des auditeurs qui sont somme toute assez jeunes. Donc je sais que la télévision n'est pas forcément le média vers lequel ils se penchent en premier et que souvent ils la découvrent via YouTube ou via le net. Et donc oui, j'ai demandé parce que ça me paraissait logique.
Vous connaissez la proportion de jeunes qui regardent votre émission ? En dehors des feignants et des malades. Non, parce qu'il faut dire, elle passe quand même à 11h30, théoriquement.
Elle passe à 11h20.
On est en classe.
Et je souhaite que vous ne tombiez pas dans le cliché de il n'y a que les gens qui n'ont pas de travail qui regardent cette émission, parce que ce n'est pas forcément le cas. Tout ça pour dire que le taux exact, je ne saurais pas vous le donner, mais je sais en tout cas que le nombre de jeunes téléspectateurs a augmenté depuis que j'en assure la présentation, ce qui est déjà pour moi une réussite en soi.
J'allais vous en parler. Comment vont les audiences ? Vous aviez vidé la salle quand vous avez pris la place de Tex, et c'est remonté, c'est revenu et ça a grimpé.
Et ça a grimpé, et là les audiences se passent extrêmement bien. Moi, ma mission, c'était de faire en sorte que les audiences récupèrent des couleurs et puis récupéraient également la gente féminine qui s'était un peu éloignée du programme. Ouais. Et c'est carton plein de ce côté-là, puisque les audiences sont très bonnes et on remonte au niveau des femmes. Donc voilà, tout le monde est content, moi le premier.
Comment vous définiriez, Bruno Guillon, votre marque de fabrique, votre style ?
Je pense que le fait d'être... je pense être au micro comme je suis dans la vie, en fait. Donc,
Tex aussi. Et moi aussi. Ça ne définit pas un style.
Et si, c'est le style Bruno Guillon.
Voilà. D'accord, en toute modestie.
C'est parce que je peux pousser des coups de gueule dans les amours. Voilà, quand il y a un mec qui parle un peu mal à sa nana, je vais lui dire. On ne parle pas comme ça ici, quoi.
Et c'est pas coupé. Et vous n'hésitez pas à raconter des souvenirs personnels, par exemple, sur vos premières stratégies amoureuses.
Le fameux intermédiaire du collège. Mais on l'a tous eu. Moi, je me souviens, il s'appelait Damien. La meuf s'appelait Valérie. Je lui avais dit, dis-lui que je veux sortir avec elle. Le gars s'est trompé de meuf. Collège Georges Texier, Saint-Jean-d'Angély. Je m'en souviens comme si c'était hier. On devait être en 84-85. Il y a deux Valérie. Une qui était en 6e 5, l'autre qui était en 6ème 2. Il se pointe à la Valérie que je connaissais même pas. Ça m'a foutu ma vie en l'air, évidemment.
Et vous savez quoi ?
Vous avez la Valérie.
Les deux Valéries sont là.
Mais non, bien sûr que non, malheureusement.
Non, mais c'est ça, voilà. Là, c'est des trucs qui s'inventent pas. C'est la vraie vie, voilà. Ouais. Donc en fait, j'amène ouais dans les.
Elles ont vraiment existé.
Ah ben, je pourrais. Alors, je vais pas donner leur nom de famille.
Évidemment.
Mais c'était Valérie Jouinou, Valérie Bor, ouais.
Ok, et à part ça, vous n'avez pas donné le nom de famille. Si elles nous écoutent, elles sont passées sur.
Je les embrasse, les deux.
Après avoir vu l'émission en entier, les questions avec les ados étaient très, très sages. Beaucoup plus que d'habitude, où elles sont un petit peu osées parfois. C'est un choix ou ça s'est fait comme ça?
Alors, elles ne sont pas forcément osées. Des fois, elles sont. On essaye de titiller de temps en temps, oui, ouais. Sur des sujets où on se dit qu'ils vont pouvoir glisser. Mais non, on essaye de faire en sorte, justement, de pas avoir cette image de, ah, ben bah, dis donc, on est au-dessous de la ceinture. Alors, comment ouais. Ça se passe, etc. Et en fait, avec des questions basique, c'est les téléspectateurs qui eux-mêmes, enfin les candidats qui eux-mêmes peuvent partir sur ce genre de sujet.
Ouais, non, je vous pose la question parce que vous êtes sur Fun, pour ne pas le citer, et sur ouais. Love in Fun, les questions elles sont gratinées.
Alors moi, Love
j'ai
in
même
Fun,
appris des mots. Hein.
C'est le soir, donc ouais, je vous oui, cache je pas que j'écoute pas trop, mais oui, mais non, mais parce que il faut être enclin avec sa génération, évidemment. C'est,
ah
enfin,
ouais.
C'est ce que je disais à la fin de l'émission avec les ados, où je disais à Pascal qui est la voix, je dis bon, essayez de foutre le sbeul, mais juste pour me moquer de lui parce que je savais qu'il saurait pas ce que ça veut dire.
Ouais, moi non plus, je sais pas ce que ça veut dire.
C'est foutre le bordel.
D'accord, ça va, non mais c'est encore poli.
Oui, ça va. Oui.
Ça va, alors vous restez avec nous, à tout ouais. De suite.
Et on continue dans quelques instants à parler de l'actualité de Bruno Guillon et c'est plutôt chargé pour l'animateur. Les Amours sont en émission spéciale jusqu'à samedi pour la Saint-Valentin et vendredi c'est aussi la 35e édition des Victoires de la Musique à 21h05 sur France 2. Il nous dit tout, alors restez avec nous sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
À l'occasion de la Saint-Valentin, vous allez pouvoir voir trois émissions spéciales des Amours à partir d'aujourd'hui, 11h30 sur France 2. Et puis justement, vendredi, ce sera aussi les Victoires de la Musique. Bruno Guillon co-anime la soirée. Il est avec vous ce matin, Philippe Vandel.
Autre actualité avec vous, Bruno Guillon. Vendredi, ce seront les 35 ans des Victoires de la Musique avec un nouveau dispositif. Vous serez pas moins de 10 à la présentation. C'est un de plus que les compagnons de la chanson. C'est quoi cette histoire? Pourquoi être aussi nombreux?
Non, mais c'est le côté anniversaire. De mémoire, ça avait été fait également pour les 25 ans des Victoires de la Musique, où une dizaine d'animateurs s'étaient partagé le gâteau.
Ouais.
Voilà, ces différents visages de France Télé qui vont être là pour assurer ces 3 heures de direct. Je trouve ça plutôt sympa.
Vous connaissez les noms des 9 autres?
Je connais les noms des 9 autres.
Allez-y.
Bien sûr, vous voulez que je vous les cite?
C'est un test.
Alors, bah, y a Sophie Davant, ouais. Y a Daphné Burki, oui. Y a Sébastien Follin, il y a Laurent Ruquier, il y a le Julien Bugier, il y a Cyril Ferraud,
ouais.
Il y a Tiga, il y a Leïla Kadour.
10 pour faire quoi? Comment vous allez faire pour ne pas vous marcher sur les pieds?
Eh ben, on va déjà préparer un peu tout ça, on est dedans et puis après on va pas animer tous en même temps à chaque fois. Évidemment, le but c'est pas qu'on arrive avec deux mots et s'enchaîner, on va animer différents plateaux et à différents endroits de la salle surtout.
Vous faites quoi vous, par exemple? Vous savez déjà ou c'est pas encore calé?
Alors moi je m'occuperai du dressing de Sophie Davant. Voilà. Et si je peux, je dirai un ou deux mots au micro aussi.
Voilà. blague à part, vous allez faire quoi?
Ben non, mais on va animer, il va y avoir plusieurs binômes, voilà, ouais. Et donc différents lancements. Pour tout vous dire, et le début de l'émission, donc c'est Florent Pagny qui va lancer les Victoires de la Musique. Et après, la présentation, voilà, moi j'attaque, je serai dans la salle avec Sophie. Laurent, je crois, sera en plateau. Et puis voilà, on va bouger, on va essayer de donner un peu de rythme.
Et vous avez également changé les catégories, vous parlez de rythme, toutes les émissions de palmarès voient leur audience baisser, les Césars, la fermeture du Festival de Cannes, les Molières et même les Oscars ont pris un gadin. Mmh. Comment ça s'explique? C'est encore le public jeune qui va moins vers ce genre de cérémonie?
Ben, je pense que c'est surtout des cérémonies où on attend plus les résultats que ce qui se passe dedans. Et que voilà, les gens, on est toujours dans le cliché des remerciements qui peuvent durer parfois très longtemps, voire trop longtemps. Et c'est peut-être par rapport à ça, mais c'est aussi, ça fluctue en fonction des artistes qui sont nommés. Là, cette année, voilà, il y a des gens avec un fort potentiel comme Angèle, etc., et qui peuvent ramener des téléspectateurs.
Avec ce paradoxe que les gens qui achètent des disques sont les jeunes et les gens qui ne regardent plus la télé sont les jeunes.
Ouais, c'est vrai, mais il n'y a pas que les jeunes qui achètent de la musique maintenant avec le streaming.
Oui, mais enfin, c'est rare de trouver des grand-mères qui vont acheter PNL.
Et bien, ça dépend. Peut-être que ma grand-mère, sans que vous le sachiez, écoute ODD en cachette.
Autre actualité pour vous, vous avez participé à l'émission événement de TF1 Star à Nu. 15 personnalités, hommes et femmes. En l'occurrence, il y avait 7 hommes qui ont accepté de se déshabiller totalement sur la scène du Lido devant 1000 personnes et aussi à la télé, mais à la télévision c'était flouté évidemment, pour sensibiliser au dépistage du cancer de la prostate et des testicules. Pourquoi avoir accepté d'y participer?
Parce que le cancer c'est quelque chose qui me touche un peu comme tout à chacun. En parallèle, moi je suis dans une association qui s'occupe d'enfants malades du cancer. Ça n'avait jamais été fait à la télé,
ouais.
et je trouvais que que l'axe choisi était intéressant. Et puis après, voilà, c'était un challenge personnel. Voilà, à l'instar de beaucoup d'animateurs, je suis quelqu'un qui est extrêmement pudique et je pense qu'il y a un côté thérapeutique à utiliser le micro et à se mettre en avant, parce que ça veut dire que souvent, quand le micro est coupé, on est un peu plus renfermé sur soi. Et donc, il y avait aussi le côté, bah tiens, ouais, je vais essayer de le faire. Et je suis vraiment content de l'avoir fait. D'autant plus que et l'audience a fonctionné, mais surtout le nombre de personnes qui depuis ont fait la démarche d'aller se faire dépister a augmenté, je crois, de plus de 25% en l'espace de 10 jours, ce qui est juste dingue.
Ouais, émission très intéressante, on avait reçu Alexandre Devoise et Arthur qui nous en avaient parlé. Comment ça s'est passé techniquement de vous mettre tout nu devant tous ces gens? Moi je pense aux 1000 personnes qui sont dans la salle. Les caméras on les voit pas, on s'en fiche, mais en vrai.
Non mais au moment où on fait le striptease, ouais. ça fait plus d'un mois qu'on sait qu'on va le faire, donc on se dit vas-y maintenant on fonce. Moi j'ai souvenir des premiers visages qui sont au premier rang, parce qu'en fait Arthur, alors, quand il nous a vendu le truc, il avait dit ouais, vous allez voir les gars, au moment où vous vous mettez tout nu, il y a de la lumière, il y a du feu d'artifice et tout ça, et les gens verront rien. Et c'est vrai qu'il y a eu ça deux secondes après qu'on soit vraiment le sexe à l'air, donc j'ai vu la tête des gens ils avaient la tête de waouh, ils l'ont fait. Ouais. Et c'est vrai que depuis l'enregistrement au Lido, je croise souvent, vous n'êtes pas sans savoir que dans les publics des émissions de télé, c'est un peu souvent les mêmes gens qui reviennent.
Bien sûr.
Et donc souvent, je croise des petites mamies qui viennent me voir en disant « Et j'étais au Lido !» Avec un petit sourire en coin de « Je t'ai vu tout nu
ouais. !» Avec un petit sourire gourmand ou une déception
Je ne sais pas, avec un petit sourire, après elle le traduit comme elle veut.
Blague à part, au-delà des parties sexuelles, il faut montrer son corps, danser en slip, torse nu. Mmh. Or, je vous en parle parce que vous faites régulièrement des vannes sur votre poids, sur votre corpulence. Et il paraît qu'Arthur vous a dit « t'as 4 mois pour maigrir ».
Exactement, et j'ai fait tout le contraire. En fait, il me l'a dit sur le coup de la vanne. Il m'a prévenu début juin, il me parle du concept. Je lui ai dit « tu sais quoi, ouais, j'ai envie de le faire ». Il me dit « bon, mais en plus c'est cool, ça va se tourner à la rentrée, donc t'auras les vacances pour perdre du poids ». Ce qui est faisable parce que je peux perdre du poids assez vite quand vraiment je me motive. Ouais. Et en fait, j'ai fait tout le contraire et je pense que j'avais besoin de ça. Je me suis dit « ça sert à rien de faire l'émission si c'est pour jouer les beaux gosses, alors que dans la finalité, c'est pas toi ». J'ai pris quasiment 6 kilos avant de faire Star Anus.
C'est pas vrai. Et là maintenant, vous en êtes où?
Et là, je les ai reperdus.
Ah bon, vous faites du sport?
Mais je reste habillé et je fais du sport.
Vous faites comment du sport?
Je fais du crossfit, ça s'appelle. C'est chiant comme la mort, je le fais une fois tous les deux jours et c'est dur.
Vous avez raison, c'est chiant comme la mort. Autre actu, vous serez dans le nouvel Interville produit par Nagui, présenté par vous-même, Valérie Beg, Olivier Mine, c'est ça?
Ouais.
Vous confirmez qu'il n'y aura plus de vachettes?
Je confirme rien du tout parce qu'on est au stade de travail. Donc
ah bon
moi, je me fais, ouais.
Parce qu'il y a déjà une polémique.
Mais je sais, mais ce qui est génial, c'est que moi, je me fais taguer sur Twitter par des gens qui m'insultent par
non,
rapport
mais
à la vachette.
Ne nous prenez pas pour des idiots ici. Dans cette émission, une réunion de travail, vous savez s'il y a des vachettes ou pas de vachettes.
La réunion de travail,
dites-moi que vous voulez pas me le dire.
J'ai fait une réunion de travail avec Valérie, avec Olivier et Nag. Et la réunion de travail, c'était est-ce que vous voulez le faire? Il y aura ça, ça et ça en termes de jeu, d'attraction. Ouais. Mais après, le sujet vachettes, Nagui a dit non, mais les vachettes, je m'en occupe. Donc Nagui s'occupe des vachettes.
Ça démarre quand?
Là, normalement, si tout va bien, on tourne courant avril, je crois.
Vous avez déjà fait le casting de vachettes?
Pourquoi vous êtes intéressé?
Non, pas du tout. Moi j'ai déjà pas voulu faire le casting tout nu.
Vous auriez dû.
Merci beaucoup Bruno Guillon, je rappelle Les Amours c'est tous les jours à 11h30 sur
11h20
pardon.
Ne carottez pas ces 10 minutes.
Ah oui, en plus c'est le meilleur. Et aussi Les Victoires de la Musique c'est vendredi à quelle heure?
21h08 je crois, en direct sur France 2.
Merci d'avoir été avec nous Bruno.
Merci
en direct sur Europe 1.
Dans un instant on poursuit avec notre heure culture Philippe, mais juste avant place aux digressions des rats d'auteur avec le duo Stéphane de Grotte et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je...
Rien. Gilles?
Oui. Vous n'avez pas entendu rentrer dans le studio?
Non, moi, je vous ai vu sortir. Alors, donc, je vous fais rentrer directement dans cet échange où nous sommes le 13 février, veille du 14, comme tout le monde le sait. Il y a quand même des gens qui ont des noms bizarres. Je vous parle d'une personne qui est morte un 13 février qui s'appelle Pierre Encrevé.
Pierre Encrevé, de rire.
Vous savez ce qu'il avait comme métier, Pierre Encrevé? Il était linguiste.
Il aurait été dans les pompes funèbres, quand t'es plus marrant, ou dans le vélo.
C'est bien, c'est amusant, oui. Une autre personne qui a un nom bizarre, c'est Jean Boulet.
Jean Boulet.
Jean Boulet. Personne ne connaît Jean Boulet, sauf la famille Boulet. Il était pilote d'essai.
C'est marrant. Oui, oui. C'est bien de se moquer du nom des gens.
Je me moque pas. Je dis juste qu'il y a des gens qui ont des noms bizarres. On avait parlé d'un chef qui s'appelait Couillon, qui est pas dans le poulet, qui est dans le poisson.
Il y a une ville qui s'appelle Paix de Lapin.
Paix de Lapin.
Ouais, ouais.
Qui est où?
Pas loin
de la Garenne. Il y avait ce village Condon.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Condon, c'était un préservatif. Hein.
Ah, je ne savais pas.
Vous savez pas qu'un condon, c'est un préservatif.
Ça sert à quoi?
Ça sert à vous préserver du pire et du meilleur. Si je vous dis Dobry Dobrev.
Dobry Dobrev.
C'est pas une chanson. Il avait 103 ans. C'était un mendiant.
Un mendiant.
C'est un mendiant qui mendiait pour offrir son argent à des œuvres. C'est beau, non?
Et les œuvres lui rendaient cet argent-là
avec un pourcentage.
Gros malin, Dobry Dobrin.
C'est pas Dobry Dobrin. Dobry Dobrev.
Gros malin, Dobry Dobrev.
Vous avez vu quoi comme film récemment?
Je l'ai pas aimé.
Ben dites-le.
Non.
Mais si.
Non, ça m'embête.
Ce sont des amis?
Oui.
Donnez-nous des indices.
Non.
C'est un film français. Forcément, s'ils sont des amis, vous n'avez pas des amis américains.
Si, j'ai énormément d'amis américains.
Ah bon? Donnez-moi un peu le nom d'un ami américain que vous avez.
D'un ami américain?
Votre meilleur ami américain. C'est lamentable. Votre meilleur ami, vous ne souvenez même pas de son prénom.
Il s'appelle. Mais j'oublie son prénom. C'est horrible.
C'est votre meilleur ami américain.
Ouais.
C'est pas gentil pour lui, ni pour personne. Vous vous souvenez de mon prénom?
Si, je sais.
je sais. Votre femme s'appelle comment?
Comment elle s'appelle? Mais quelquefois, j'ai des trous de mémoire qui me terrifient.
Parfois, vous avez de la mémoire, mais souvent, vous avez des trous de mémoire. Vous vivez dans un cratère.
Voilà, mon meilleur ami américain s'appelle Richard Culp.
Richard Culp.
Richard Culp.
Et votre meilleur ami français? Vous savez plus non plus. On est où là, Gilles? Quelle heure est-il? Vous avez quel âge? Quel est votre plat préféré? Pourquoi on parlait de ça?
Mais je sais pas, c'est vous qui posiez des questions.
Ce n'est pas intéressant. On va arrêter.
Bah voilà.
Je vous propose de nous retrouver demain pour le 14 février. Merci en tout cas d'être venu. Dire pas grand chose, ça vaut vraiment la peine d'être là.
Dites donc, c'est une curieuse façon de dire au revoir. Hein.
À demain, Gilles, pour le 14 février.
C'était Les Rats d'auteur avec Stéphane de Grotte et Gilles Gaston Dreyfus. Feuilleton quotidien à retrouver dès demain, 9h55, et en podcast aussi sur Europe1.fr.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h de Marguerite Lefebvre. On va parler culture avec Marie-Josée Croze. Elle est l'héroïne de la série internationale Mirage. Diffusée sur France 2, ça démarre lundi soir. C'est sa première série. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Elle est déjà là elle aussi et c'est pas un mirage. Et puis dans les indispensables, un doc consacré à une star planétaire, Taylor Swift. Ce sera sur Netflix et une exposition interactive dans laquelle on peut créer tout ce qu'on veut. Vous allez me dire, c'est le principe de l'interaction.